Alléluia. On peut prier ensemble ? Alléluia, papa. Ben, Seigneur, on te loue vraiment pour ta présence, pour ce temps de louange. On sait vraiment que tu étais au milieu de nous, que tu nous as touchés, tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à nos vies. Seigneur, nous voulons encore nous approcher de toi et te demander que tu parles à nos cœurs. Te demander vraiment que tu révèles, tu dévoiles des choses encore de ce qui est sur ton cœur. Je te prie vraiment que tu me fortifies, que tu mettes tes paroles dans ma bouche. Seigneur, que tu nous donnes d'aller plus loin avec toi, au nom de Jésus. Amen. Vous connaissez le chant « Car Dieu est un Dieu puissant ». Le couplet, vous savez qui c'est qui l'a écrit celui-là ? « Car Dieu est un Dieu puissant, il règne ». Alors, c'est qui ? Un Espagnol ? Pas sûr. Pas non plus. C'est dans la Bible. Comment ? Qui ça ?
David.
David, non. Non plus. Et non. Non, ça commence comme David. Ah, ça complique, hein ? C'est pas Daniel. Je vous propose de prendre dans Daniel 6, verset 26. C'est un roi païen qui a écrit ça. Un roi médo-perse, Darius. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsistera éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. Est-ce que vous trouvez qu'il écrit un beau chant ? Je ne dis pas qu'il a fait la musique, hein ? Merci pour celui qui a fait la musique. Je ne sais pas si c'est l'un, je ne crois pas que c'est l'un d'entre nous, mais bon. En tout cas, il écrit un beau chant. Et pourtant, c'est un roi qui ne savait pas grand-chose de Dieu. Et vous avez vu ce qu'il dit ? J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume. Vous savez ce que Jésus a dit dans Matthieu 24 ? Au temps de la fin, l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Alors viendra la fin. Et Jésus, quand il est venu, il a dit, il est venu annoncer l'évangile du royaume. Il est venu annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et vous avez vu qu'il y avait quelqu'un qui l'avait précédé. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un avait prêché l'évangile du royaume avant Jésus. Il a dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est un Dieu vivant. Il vivra éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Sa domination n'aura jamais de fin. Il a évangélisé les nations. Il était roi, c'était un empereur. Il avait énormément de gens qui étaient sous sa coupe. Et il leur a dit, j'ordonne que vous aimiez le Seigneur, vous le connaissiez. Son royaume va durer éternellement. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Et vous savez qu'il a été précédé par quelqu'un d'autre ? Qui c'est qui l'a précédé en ça ? Un roi très connu aussi. Hein ? Daniel 3. Daniel 4, pardon. Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Vous vous rendez compte la salutation déjà ? Que la paix soit avec vous. Hein. Il n'y a pas que les disciples qui disaient ça. Il y a des rois qui ont utilisé cette expression pour bénir les nations qui étaient sous eux. J'aurais envie de le relire. Nabuchodonosor, roi à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue, on se dirait déjà dans l'Apocalypse, tous ces peuples qui sont appelés à louer le Seigneur et à l'adorer. Et c'est un roi païen qui les pousse. Que la paix soit avec vous. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Amen. Vous vous rendez compte, c'est un roi aujourd'hui. Que la paix vous soit donnée avec abondance, hein, Monsieur Sarkozy. On accepte les paroles de paix. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands. Que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un empereur, roi de plusieurs nations, de beaucoup de peuples et de langues, a ordonné qu'on le loue, qu'on loue et qu'on adore le Dieu des cieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si on prend dans Psaume 2, vous connaissez le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, etc. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, etc. Vous le connaissez. Il dit au verset 8, d'abord, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, c'est Jésus qui parle. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Tu vas les briser avec une verge de fer. Et il dit au verset 10, maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction, apprenez. Verset 12, baisez le fils, ça veut dire embrassez le fils avant de peur qu'il ne s'irrite, avant qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans vos voies, car sa colère est prompte à s'enflammer. Il dit au roi de la terre, à ceux qui gouvernent, à ceux qui règnent, apprenez, apprenez, apprenez du père, apprenez du fils, recevez de l'instruction. Et vous savez qu'il y a des empereurs qui ont reçu de l'instruction du roi, du Seigneur. Il y a des empereurs de la terre qui ont été enseignés par Dieu. Un des premiers empereurs qu'on connaît qui était enseigné, c'est Pharaon. Il y a eu un Pharaon qui était enseigné de Dieu. Dieu lui a envoyé un de ses guerriers, un de ses bien-aimés, Joseph. Joseph qui vient de prison, qui est élevé jusqu'à la cour du Pharaon, de l'empereur, le plus grand empire d'alors, l'empire égyptien. Il connaissait de la gloire, de la richesse qui couvrait beaucoup de surface, beaucoup de gens. Des siècles, peut-être des millénaires, Luc saurait peut-être mieux que moi, je ne sais plus combien de temps il a duré, mais il a duré très longtemps. C'était un grand empereur. Et cet empereur a été enseigné par Dieu. Dieu lui a dit, je vais t'enseigner, mon grand. Et comment Dieu s'y est pris? Il lui a envoyé un songe. Il ne s'est plus rappelé de ce songe. Il a besoin que de quelqu'un qui lui dise le songe et l'interprétation. Et déjà, quand il a vu ça, il a dit, mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui est là, qui règne. Il a dit, alors Joseph s'est occupé de l'Empire, et non seulement Pharaon a eu le songe, l'interprétation, mais il a vu que tout s'est accompli. Et il a vu que sa nation a été sauvée par le Dieu des cieux. Et il a vu que c'était réel. Et il a été enseigné, il a appris, et il a appris à embrasser le Fils. Il a appris à honorer Dieu, à le craindre. Et il a fait que sa nation soit bénie au travers de l'apprentissage qu'il a eu de Dieu. Hélas, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il a transmis à son fils, qu'il a peut-être commencé à transmettre au fils, et ça s'est perdu. Et on a un pharaon qui s'est élevé contre Dieu, au point de durcir son cœur jusqu'au bout, et qui a amené la destruction sur le pharaon, sur sa famille et sur l'empire. Un pharaon qui a craint Dieu, qui a appris de lui, a sauvé sa nation. Un pharaon, un empereur, qui s'est opposé à Dieu, qui ne craignait plus Dieu, qui ne voulait rien savoir, a détruit l'empire. Un autre empereur qui a appris, c'est Nebuchadnezzar. Dieu lui a dit, toi aussi, je vais t'enseigner. Tu es la tête d'une grande nation, d'un grand empire. Il lui a dit, tu couvres beaucoup de nations, beaucoup de peuples, beaucoup de langues, beaucoup de gens, des millions de gens qui sont sous ton autorité. Je vais t'enseigner. Je vais te prendre et je vais te parler. Et Dieu lui adresse un rêve. Il voit une statue, mais il ne se rappelle plus de son rêve. Il sait que son rêve est hyper important. Il sait que ça compte plus que beaucoup de choses. Au tel point que parce qu'il n'avait pas l'interprétation de ce rêve, il était prêt à détruire tous les magiciens, tous les astrologues, tous les mages, tous les sages de son royaume. Il avait pris des années à les rassembler. Il venait de plein de nations. Il les avait rassemblés. C'était toute l'élite de sa nation. Et il était prêt à les tuer. Parce qu'il n'était pas capable de révéler le rêve. C'était quelque chose d'essentiel pour lui. Et cet empereur, Dieu lui envoie quelqu'un. Dieu lui envoie un de ses meilleurs guerriers. Un des gars qui faisait l'élite de la nation d'Israël de l'époque. Quelqu'un qui était formé à la cour d'Israël et qui finalement était formé à la cour de Babylone, mais qui a craint Dieu jusqu'au bout. Un homme d'une trempe exceptionnelle, d'une foi incroyable, d'une sagesse pleine et entière, Daniel. Cet homme, Dieu l'envoie à la cour de Babylone. Il l'envoie auprès du roi. Et Daniel donne l'explication du songe à Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar s'incline. Il reconnaît qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il reconnaît qu'il y a un roi. Parce que ce Dieu lui a donné un rêve pour l'enseigner. Il s'est dit, oh, il y a un Dieu qui m'apprend ce qui va se passer dans la suite des temps. Déjà, il est ému. Ensuite, quelqu'un qui lui rappelle le rêve qu'il avait oublié. Personne n'avait pu faire ça avec toute la magie, l'occultisme qu'il y avait, les astrologues. Personne n'a pu lui rappeler le rêve. Mais il y a un homme qui a pu parce qu'il craignait Dieu. Il a appris. Et il a appris encore parce que quand il a voulu faire une statue, souvent je croyais que c'était une statue qui représentait Nebuchadnezzar. Mais j'ai réalisé que la statue, il a voulu simplement déifier, peut-être même rendre un culte au Dieu des cieux, parce qu'il a fait une statue à cause du rêve qu'il a eu. Il a vu une statue en rêve, et il a construit une statue pour qu'on l'adore. C'était même pas lui qu'on voulait adorer. Il y avait quelque chose de beau chez ce roi. Il y avait quelque chose d'assez grand quand même. Dieu l'honore. Et dans la statue que l'on voit, Dieu lui dit, tu es la tête d'or. C'est toi la tête d'or. Tu as une tête de grande valeur. Ton empire a beaucoup de valeur. Et plus loin, dans Daniel 7, on parle des animaux. C'est un animal que Dieu dit avec un cœur humain. Si Nabucodonosor, il y avait un cœur humain, un cœur prêt à s'incliner devant les dieux des cieux. Et à un moment donné, il s'élève quand même. Il y a un certain orgueil parce qu'il a fait une ville magnifique, un empire immense. Et Dieu lui dit, mais j'ai pas fini de t'apprendre, toi. Bon, moi, je te reprends à l'école, viens. Il va falloir que tu sois humilié. Tu vas perdre ta raison. Tu vas aller boire l'eau dans des rivières, manger l'herbe des champs pendant 7 ans, jusqu'à ce que tu t'humilies et tu reconnaisses de nouveau que je suis Dieu et que je donne l'empire à qui je veux. J'élève les rois, j'abaisse les rois. Les rois sont dans ma main, je suis le maître, je suis le Seigneur. Tu l'as oublié, je vais te le réapprendre. Nebuchadnezzar tombe, il descend. Il est humilié. Et on peut lire dans Daniel. Donc Daniel 4, en fait, c'est ça. La suite, donc, quand il se relève, on peut lire dans Daniel 3. Non, pardon, je me trompe, c'est Daniel. Daniel 6. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle, dont le règne subsiste de génération en génération, un empereur qui dit qu'il y a quelqu'un qui règne au-dessus de lui, dont le règne sera sans arrêt, qui va régner jusqu'au bout, de génération en génération. Il savait très bien que les règnes des rois s'arrêtent un jour, que les empires se lèvent et s'abaissent. C'est la définition d'un empire. Si vous regardez, qu'est-ce qui fait d'un empire un empire? C'est qu'il y a beaucoup de nations, il y a un roi au-dessus de tout ça. L'empire se lève et un jour il retombe. C'est la définition même de l'empire. Mais il savait qu'au-dessus de son empire, il y avait un empereur, un roi des rois, un seigneur des seigneurs, dont l'empire n'aurait jamais de fin, dont le règne ne s'arrêterait jamais. J'ai loué et glorifié. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Il y a une armée qui est prête, Émilie? Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers, mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Maintenant, moi, je loue, j'exalte, je glorifie. Quand il y aura des paroles comme ça dans nos bouches, vous avez vu comme il adorait, comme il louait. Cet esprit même de louange qui était en lui, même on le demande encore que nous, on l'ait aussi. Et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. On prie qu'on ait la même révélation du roi des rois, du seigneur des seigneurs, celui dont le royaume subsistera toujours, celui qui règne. Donc il a appris. Il a appris encore parce qu'il a vu des hommes qui résistait à l'empereur tout-puissant, celui qui disait un mot et on pouvait tuer n'importe qui dans le royaume. Celui dont la puissance était si magnifique, il y a eu des hommes qui ont résisté. Non, on n'adorera pas ta statue, roi. Nous, on adore le Dieu des cieux. On ne pliera pas le genou devant ton Dieu, devant ta statue. On résiste. C'est la première fois que cet empereur trouvait quelqu'un qui lui résistait au nom d'un Dieu. Tous les autres adoraient tous les dieux qu'on pouvait trouver, ils n'avaient aucun problème. D'un coup, il a devant lui des hommes qui refusent au nom du Dieu des cieux. Il en est baba. Alors, il est obligé de les punir parce qu'il est soumis à son propre décret. Mais il n'a qu'une envie, c'est qu'il soit sauvé. Et qu'est-ce qu'il voit? Que ces hommes sont sauvés je crois que là, c'était la fournaise, je n'ai pas relevé. Je pense que c'est la fournaise ou les lions, pardon, je ne sais plus. En tout cas, il y a un grand miracle. Ces hommes sont sauvés. Ils ne sont pas détruits, ils ne sont pas tués. Il a appris au travers de la sagesse du Dieu des cieux, de la révélation, du sens qui est interprété, de la puissance de Dieu qui sauve des hommes, des hommes qui lui résistent. Et parce qu'il a été humilié et la raison lui a été rendue. Cet empereur a appris à connaître le Dieu des cieux, à l'adorer, à le craindre. Et vous savez, donc la vision qu'il a eue, c'est cette fameuse statue. Il y a une tête en or, poitrine en argent et les bras, ventre de bronze avec les jambes, et le reste des jambes et les pieds en fer et en argile. Et donc, quand les anges expliquent à Daniel ce que ça veut dire, toutes ces parties, ce sont des empires qui se succèdent. Donc la tête d'or, c'est Babylone, Nebuchadnezzar. Au roi des rois, Daniel l'appelle roi des rois. Il reconnaît en lui quelqu'un de grand. Tu es la tête d'or, de l'or, tu as de la grande valeur. Tu es vraiment quelqu'un de précieux et d'important. Même Dieu t'a enseigné, t'a appris. Mais après toi va venir un empire, il ne sera plus que de l'argent. Il aura déjà perdu de la valeur. Il y aura de la division parce qu'il se partage entre les bras. Il ne sera plus aussi uni que l'était l'empire de Babylone. C'est l'empire Médo-Perse, l'empire des Mèdes et des Perses. Après les Mèdes et les Perses, il y aura un autre empire. Ce ne sera plus que du bronze. Le bronze, ça devient plus dur. L'or est assez tendre. Mais le bronze, ça devient dur. Il y a de la dureté. C'est l'empire grec, il y a de la dureté. Il n'y a plus de crainte de Dieu. Il a perdu énormément de valeur. Il est divisé. Après l'empire grec, Alexandre le Grand, quand il a conquis tout l'empire, après lui, en 13 ans, il est mort. Il y a eu 4 empires qui lui ont succédé, 4 rois. Encore plus divisés. Donc ils se durcissent. Plus de crainte de Dieu. Etc. Et le dernier empire, c'est l'empire romain. Encore plus divisé, les orteils. 10 orteils, 2 pieds, 10 orteils. Il y a eu 2 empires romains d'Orient et d'Occident. Et on sait qu'après, il y aura 10 rois. Ça veut dire que ce sont des nations qui essayent de s'unir, mais qui sont très peu unies entre elles. Mais la violence encore plus, c'est un empire très violent qui détruit, qui écrase, qui foule aux pieds. Effrayant. Et il n'a plus du tout de crainte de Dieu. Dieu n'est plus du tout là dans l'empire romain. Il n'y a plus rien. Tout ce qui avait été enseigné à Nebuchadnezzar, il a essayé un peu de transmettre. Vous avez vu que Darius a appris à connaître aussi. Darius aussi a une vision. Dieu lui a révélé le sens de la vision. Il a vu aussi un homme qui a craint Dieu, qui lui a résisté en face, Daniel. Il a eu le miracle. Il a été dans la fosse aux lions. Il n'a pas été tué. Darius, le Mède, a appris à honorer le Dieu des cieux, à le craindre. Il a ordonné à toutes les nations d'honorer, d'aimer le Dieu des cieux. Et il y a eu un autre roi qui était un empereur aussi de Médo-Perse, avec Darius en même temps, c'est Cyrus. Cyrus a été un des oints, Dieu l'appelle un oint de l'Éternel, celui qui a ordonné que tout Israël retourne chez lui, sur sa terre. Des empereurs ont été enseignés. Et à un moment donné, ça s'est perdu, ça s'est décliné, et ils ont perdu l'Empire. Et l'Empire grec, quand il est venu, il s'est attaqué Israël, et c'est l'Empire grec qui a mis l'abomination de la désolation dans le temple. Il a profané le temple saint. Plus on est allé dans les empires, on est descendu, plus la crainte de Dieu a été perdue. Plus on s'est opposé à Dieu. Dieu ne pouvait plus enseigner ses empereurs. Les Romains ont fait pareil, ils ont profané le temple, ils l'ont carrément détruit. Et c'est eux qui ont dispersé Israël sur toute la surface de la terre. Nebuchadnezzar avait juste déporté les Israélites, mais il n'avait pas demandé à ce qu'on l'adore. On adorait une statue parce qu'il avait une vision. Darius, c'était déjà un peu plus grave. Il y a eu une adoration de lui-même. Il demandait à ce qu'on l'adore. Belshazzar, le dernier empereur de Babylone, avant que les Mèdes viennent, il a voulu prendre tout ce qui était du temple saint afin que ça le serve. Et Dieu lui a dit, maintenant je t'enlève tout, tu perds tout. Donc il y a eu une élévation des empires et une perte. Et à la fin, qu'est-ce qui doit se passer? Un empire doit se relever. Il y a eu des empires pendant tous ces siècles. Vous savez qu'au XXe siècle, il y a eu beaucoup d'empires. Est-ce que vous connaissez les empires du XXe siècle? Les Ottomans. Comment? Oui, c'en est un, mais c'est peut-être pas celui auquel j'ai pensé en tout premier. Je suis un peu perdu dans mes notes. Austro-Hongrois. Il y a eu l'Empire austro-hongrois qui s'est écroulé. Il y a eu l'Empire russe des Tsars. C'était un immense empire. C'est peut-être un des plus grands qui ait existé. Écroulé au XXe siècle. L'Empire, le Reich allemand. Hitler voulait construire un empire, hein, le Troisième Reich, le Troisième Empire. Il a recouvert beaucoup de nations, il s'est écroulé. L'Empire italien, Mussolini a voulu bâtir un empire, il s'est appelé aussi empereur. Il s'est écroulé. L'Empire japonais, il y avait un immense, c'était très grand, il y avait aussi une réunion de plusieurs nations, il s'est écroulé. Un immense empire qui s'est écroulé, l'Empire britannique, c'était aussi un des plus grands. L'Union soviétique s'est écroulée, c'était un immense empire. Le XXe siècle a vu des empires anciens s'écrouler, des empires récents se lever et s'écrouler. Il y a une guerre d'empires. Il y a des empires qui se sont levés pour s'opposer à Dieu. Il y a des rois, il y a des gens qui devaient venir en la tête. En même temps, Dieu les élevait. Dieu disait, de toute façon, c'est moi qui domine. Et en même temps, il y avait une volonté satanique de réunir des nations, d'essayer de construire une force capable de résister à la venue de celui qui devait venir. Satan sait très bien qu'il y a quelqu'un qui doit venir pour régner à la fin des temps. Il sait très bien qu'il y a un empire qui va se lever et que même des rois avaient compris que cet empire ne s'arrêterait jamais. Dans Ésaïe 9, 6, vous connaissez ce verset, on commence au 5. Un enfant nous est né, hein, c'était Noël il n'y a pas longtemps encore, on peut dire. Un fils nous est donné, et la domination va être sur ses épaules. On l'appellera admirable, etc. Verset 6, donné à l'empire de l'accroissement. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que va faire le zèle de l'Éternel des armées. Le Seigneur va donner, est en train de bâtir un empire. Et vous savez à quoi ça me fait penser, un enfant nous est né? Vous savez, quand il y avait des empereurs, il se passait la royauté de fils en fils. Et si un empereur, pour l'instant, n'avait pas de fils, tout le monde se disait, qui c'est qui va régner? Et puis un jour, il y a une bonne nouvelle. Il y a un fils qui nous est né. Il y a un fils. L'empereur a un fils. On sait qui c'est qui va diriger l'empire. On sait qui c'est qui va avoir la royauté. Et ça, c'est le cri. Ésaïe 9,5, c'est le cri. Un enfant est là. Il y a un enfant qui est né. C'est à lui que va appartenir l'empire. Vous avez vu le lien? Nous, on dit un enfant nous est né. Voilà, ça va être quelqu'un de génial. Il va aimer les gens. Il va aimer les nations. Il va venir mourir sur la croix. Il va nous parler de l'évangile. Il va nous parler du salut. Il va, etc. Non, regardez le lien. Un enfant nous est né et la domination vient sur ses épaules. Il est là, il vient pour bâtir un empire. Un empire qui n'aura jamais de fin. Voilà le but de la venue du Fils. Bâtir un empire inébranlable. Amen. C'est ce qu'avait compris Nebuchadnezzar. Darius l'avait compris. Est-ce que nous, on l'a compris? Est-ce que nous, on l'a réalisé? Quand Jésus est venu, il n'est pas venu annoncer un évangile du salut. Il n'est pas venu dire, je viens, ville d'Israël, je vais mourir sur la croix pour vous sauver. Il n'a même pas dit, je viens vous guérir. Il n'a pas dit, je viens pour que vous puissiez être bien. Je viens vous annoncer un royaume. Il est venu, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu dont l'origine remonte aux temps anciens. Il est en train d'arriver. Il est en train d'être bâti. Alors c'est sûr, ça va passer par des temps de souffrance encore. Mais il est déjà là. Il est au milieu de vous. Et il va croissant. Amen. Et alors il y en a un qui s'oppose à cet empire. Il s'est dit, je ne veux pas de l'empire de Dieu. Je ne veux pas que le Fils vienne régner. Donc il va falloir que je brise ce plan. Donc il a dit, je vais bâtir mes propres empires. Je vais élever mes empereurs qui vont essayer de rassembler le maximum de force pour résister à cet empire-là. Et en même temps, ces empires, je vais leur dire, allez détruire Israël. Parce que je sais que le Fils de Dieu doit venir en Israël. Je sais que c'est dans Israël qu'il va y avoir son gouvernement. Je sais que le roi va commander à partir d'Israël. Donc, il va falloir qu'on détruise Israël. Donc, au boulot, les gars. Donc, ces empereurs ont essayé de plus en plus de détruire Israël. Les Grecs ont été encore plus loin. Les Romains encore plus. Ils ont carrément détruit le temple. Ils ont dispersé Israël. Plus d'Israël pendant 2000 ans. Et maintenant, pas de peau pour lui. Un Israël existe à nouveau. Donc il remet le plan en marche. Le plan est en train de se relancer. Il va de nouveau falloir un empire de la fin, un empire qui va recouvrir de nombreuses nations, avec un empereur hyper puissant à sa tête, parce qu'il sait que l'empire de Dieu arrive. Il sait que ses temps sont comptés. Donc il est en train de rassembler le maximum de forces, avec toujours le même objectif, s'opposer à la venue du roi et s'opposer à Israël qui doit recevoir le roi. Regardez ce qu'on lit dans Michée 4. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations y s'y rendront en foule et diront « Venez, montons la montagne de l'Éternel à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne que nous marchions dans ses sentiers, car c'est de Sion que va sortir la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes et lointaines. » De leur glaive, ils forgeront des royaux, de leur lance des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'attendra plus la guerre, etc. Le gouvernement vient et va s'établir à Jérusalem, en plein Israël. Et c'est de là que recevront, que sera envoyé l'enseignement vers les nations. Et l'Église de Christ, elle sera dans les nations, en train d'appliquer le gouvernement qui vient d'Israël. Ce sera un travail main dans la main. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alors le Seigneur nous a prévenus. Il a dit que avant que la venue de ce royaume se fasse totalement sur la terre, il va y avoir des temps difficiles, c'est vrai. Il va y avoir des souffrances, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir des signes dans le ciel, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir la guerre contre les saints. Mais regardez la vision de la statue, si on revient à Daniel 2. Daniel 2. Avait déjà vu ce qui va se passer. Quel est l'objectif final de Dieu ? Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera pas, verset 44, sous la domination d'un autre peuple. Il brisera, détruira tous les royaumes et lui-même subsistera éternellement. Le grand Dieu s'est fait connaître au roi ce qui va arriver après cela. Le Seigneur veut transmettre le royaume aux saints. C'est dans le chapitre 7 aussi. Chapitre 7, verset 13. « Je regardais pendant mes visions, et voici, sur les nuées des cieux arrivait quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers celui qui était vieux en un jour, vers celui qui est éternel, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, etc. » Verset 21, « Je vis cette corne, donc il y a la corne représente un roi, faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Je pourrais lire beaucoup de versets. L'objectif, c'est qu'il y a une guerre de royaume, d'empire contre un empire qui vient. Le Seigneur veut établir cet empire. Le roi, le Fils de Dieu vient comme roi sur cet empire et il va donner le gouvernement à tous ses saints, tous ceux qui auront cru. Tous les gouvernements des autres nations seront soumis et les nations seront obligées de le servir lui. Parce qu'il va les diriger avec un gouvernement de fer. Et nous serons avec lui. C'est ça la vision des temps de la fin. Ce n'est pas seulement toutes les souffrances qui vont arriver, tout ce qui se passe, et ça commence, c'est en train d'arriver. C'est surtout que c'est le temps du passage de témoin. C'est le passage de sceptre. Le roi vient prendre son sceptre. Et nous sommes là pour l'annoncer. La bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. La bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de l'empire qui ne va jamais s'arrêter. Il faut qu'on commence à parler de ce royaume. Il faut que ce royaume soit dans nos bouches. Est-ce que nous l'attendons, le royaume ? Le Seigneur vient pour ceux qui l'attendent, pour ceux qui attendent le royaume. Nous devons l'attendre. C'est notre rôle. Vous savez que Israël, ça vient de Sarar, celui qui règne, celui qui règne avec Dieu, celui qui a lutté et celui qui règne avec Dieu. C'est ce qui a donné Sarah, avec un H, la princesse. Et c'est ce qui a donné le mot Zar, roi. Je ne suis pas sûr, je n'ai pas vu que c'était ça, mais je me demande, Nebuchadnezzar, un roi. Et tous les rois s'appelaient Nebuchadnezzar, Nabopolassar, etc. Et après, il y a aussi les tsars russes, les Césars romains. Tous ces mots ont la même racine. Ça montre que la notion de l'empereur est née, et l'ennemi a voulu le prendre dans Israël, et essayer de l'appliquer à ses nations, mais que le titre royal du tsar va revenir à Christ. Il sera le vrai roi, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et nous l'attendons. Alléluia Jésus. Ne crains pas, petit troupeau. Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez l'empire. Est-ce qu'on permet de mettre empire à la place du royaume? Vous savez pourquoi le Seigneur n'a pas tellement utilisé le mot empire? Dans empire, il y a cette notion de plusieurs nations qui essaient de se rassembler et qui montent et qui tombent et qui essayent de s'agrandir, mais qui a un, c'est un régime dur. C'est un régime qui s'impose. Et le Seigneur nous a transmis plutôt une notion de royaume où il y a un roi proche des siens. Un roi qui aime les siens, qui aime son peuple, qui aime. Mais c'est un royaume qui couvrira beaucoup de royaumes. Un royaume qui s'agrandit. C'est aussi un empire. Mais l'empereur à la tête est un roi aimant, un roi proche des siens. Amen. Nous devons voir cet empire. Il est en train de venir. Et c'est nous, le peuple de Dieu, qui l'annonçons et qui le préparons. Il envoyait ses disciples prêcher le royaume. Nous sommes les fils du royaume. C'est nous les héritiers. Un enfant nous est né, il est le roi, mais il y a d'autres enfants qui sont nés. Et chaque fois qu'un enfant naît de Dieu dans le royaume, il dit, il y a encore un enfant héritier du royaume. Il y a un nouvel héritier du royaume, quelqu'un qui va avoir autorité et qui régnera avec Christ. Alléluia. Apocalypse 1:9, Jean, vous savez ce qu'il a dit? J'ai part au royaume avec vous. J'ai part au royaume. J'ai une part dans le royaume. Nous recevons un royaume qui est inébranlable. Nous devons avoir commencé à prendre la mentalité royaume. Il y a un roi. Il règne. Il vient régner. Nous sommes ses gouvernants, ceux qui gouverneront avec lui. Babylone, il y avait 120 régions. 120 satrapes, ça veut dire ceux qui commandaient. Il va falloir du monde pour commander les régions du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever? Dieu compte sur vous. Dieu est en train de vous former. Dieu est en train de vous préparer. Parce qu'il va falloir qu'on guérisse les nations. Il va falloir qu'on amène les gouvernements du roi dans les nations. Et ça arrive dans peu de temps. C'est à la porte, c'est proche. J'avais préparé toute une autre partie encore. Jésus, est-ce que vous avez encore un peu de patience ou je m'arrête? C'était la meilleure partie. Vous avez vu dans Isaïe 9:6, il veut donner une paix sans fin à qui? Au trône de David. C'est David qui est le roi. David va engendrer une descendance royale. Il y a quelqu'un qui s'est opposé à la venue de David. David était appelé à être un roi. Il avait été un roi. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas de ce roi. Et qui s'appelle Saül. Saül avait d'abord été choisi par Dieu. C'était un roi selon Dieu. Et à un moment donné, il s'est opposé à Dieu. Alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que ça ferait un peu long la suite. J'en parlerai peut-être une autre fois. Alléluia, Jésus. Seigneur, on te loue parce que tu es le roi des rois. Tu es le vrai Seigneur des seigneurs. Je te loue pour les empereurs qui ont plié le genou devant toi, pour les pharaons d'Égypte, pour les Nabuchadnezzar, babyloniens, pour le Darius et Cyrus, perse et mède. Seigneur, merci parce qu'ils t'ont reconnu comme roi. Ils ont plié les genoux devant toi. Ils ont reconnu que malgré toute leur puissance, toute leur gloire, tout leur règne, il y avait quelqu'un qui était au-dessus d'eux et qui régnait. quelqu'un qui commandait à leur vie, quelqu'un qui commandait à leur destinée. Et ils se sont inclinés. Et ils ont ordonné à leur royaume d'antan, à leurs empires, de s'incliner devant le roi et de t'adorer. Je te loue parce que l'évangile du royaume avait déjà été prêché aux nations. Et Seigneur, je te loue parce que maintenant il y a un des temps nouveaux où tu vas permettre que peut-être des empires se bâtissent. Mais nous savons qu'en même temps, l'évangile du royaume sera prêché à toutes ces nations de nouveau. On te loue pour ces temps qui viennent, où l'évangile du royaume sera annoncé, où on en sera qu'il y a un roi qui règne, un roi qui vient, que les empires sont dans les mains du roi, que les empereurs, que les chefs, que les antichrists sont dans la main du roi, qu'il est le roi des rois, qu'il règne. Alléluia, Jésus. Et Seigneur, que ce roi vient. Que ce roi vient. Seigneur, merci parce que ta parole ne nous apprend pas un mouvement de la terre vers le ciel. Nous ne sommes pas tellement seulement appelés à être enlevés, à aller habiter un jour dans le ciel. Seigneur, ce que tu nous enseignes, c'est un ciel qui descend sur la terre. C'est un mouvement du ciel vers la terre. Seigneur, que ton royaume vienne. C'est ce que tu nous as appris à prier, que ton règne vienne, que ton empire vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous voulons le prier davantage. Seigneur, nous avançons, nous en oui. Nous prierons davantage. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton royaume vienne. Seigneur, la Bible, elle termine avec ces mots. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Et l'épouse et l'esprit disent, viens. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et Seigneur, tu viens pour ceux qui auront aimé ta venue. Seigneur, nous voulons aimer ta venue. Aimer la venue du roi, de notre Seigneur et de notre Dieu. Et Seigneur, nous savons que pour la venue du roi, nous travaillons aujourd'hui. Nous travaillons, nous travaillons, nous travaillons pour le roi, nous travaillons pour l'empire. Nous travaillons pour un empire qui ne passera jamais, qui ne disparaîtra jamais. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Amen.
Merci Franck pour cet enseignement. Nous faisons partie d'un royaume où les chefs, ce sont ceux qui servent, et où les malades sont guéris, et où les démons sont chassés. C'est un drôle de royaume quand même. Et c'est ce royaume qui vient, et au travers de chacun de vous, de chacun de nous. Voilà, donc on veut s'arrêter là.